Les tsars du ballon rond, le quart d'heure des spécialistes.
Et bienvenue dans ce quart d'heure des spécialistes où, comme chaque jour, nous accueillons un expert du football qui nous livre son regard sur cette Coupe du Monde. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Christophe Moulin. Bonjour.
Bonjour.
Mais avant de se plonger dans l'actualité de ce mondial, place à Jérôme Moutet qui va nous dresser à sa manière le portrait de Christophe Moulin.
Né en 1958, Christophe Moulin né en 1971, Christophe Moulin journaliste français et Christophe Moulin alpiniste français, ce qui me pousse à croire que vous frisez la schizophrénie. Il ne manque plus que Christophe Moulin star du X et le tableau est complet. Alors j'en prends un au bol et paf, coup de chance, c'est vous. Christophe Moulin, vous êtes donc né le 23 avril 1971, la même année que les accords quadripartites sur Berlin. Ne me demandez pas ce que c'est, j'en ai aucune idée. Par contre, et c'est là que ça va le faire à mort, vous êtes contemporain avec l'actrice américaine Denise Richards, mais surtout avec Adriana Carambeu. Bon, à contrario, vous êtes aussi contemporain avec la chanteuse Hélène Ségara, alors ça calme tout de suite les choses. Mais parlons de votre parcours. Après avoir joué comme défenseur central dans quelques clubs, vous devenez directeur technique de la formation à Neuchâtel Xamax. En mars 2004, vous êtes nommé entraîneur intérimaire de Xamax, club que vous parvenez à sauver de la relégation. C'est quand même dingue, le nombre de clubs romands qui ont dû être sauvés de la relégation ces dernières années, mais pas tous avec le même succès. On embrasse d'ailleurs nos amis lausannois. En 2006, vous êtes engagé comme performance coach au sein de l'Irish Football Association. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un club de goûteurs de whisky, une association de joueurs de cornemuse? Et non, c'est du sérieux, car durant 5 ans, vous vous occupez de la formation et vous entraînez les équipes nationales M17 puis M19. Vous collaborez parallèlement avec Nigel Worthington, manager de l'équipe nationale A de l'époque, qui vous nomme responsable de l'analyse des équipes nationales adverses. Ah mon salaud! Vous avez sûrement dû enquêter sur l'équipe suisse. Bon. Ça va vous faire seulement un carton jaune, car en 2011, vous revenez à Neuchâtel Xamax comme directeur sportif et effectuez également deux nouveaux intérims comme entraîneur de l'équipe professionnelle. Bah décidément, vous êtes le plombier de service du côté de Neuchâtel. Donc, si vous avez des éviers ou des toilettes bouchées, une seule adresse, Christophe Moulin. Des boucheurs en tout genre et avec Christophe Moulin, vous ne serez plus dans la merde. En janvier 2012, vous signez un contrat de 2 ans avec l'Espérance sportive de Tunis en tant qu'adjoint de Michel Decastel. Oui, le même qui est actuellement entraîneur de Xamax avec sa voix 5 octaves en dessous de la moyenne. En janvier 2012, vous êtes de retour en Suisse, comme quoi l'aventure à Tunis a été de courte durée, et vous êtes nommé directeur de la formation du FC Sion. Ah, horreur, malheur, encore un qui a dû se taper Christian Constantin comme supérieur. Mais là où vous avez été très bon, Christophe, c'est en janvier 2015, car là, vous avez su, avec votre talent et votre expérience, vous faire engager dans une structure nationale pour être dorénavant fonctionnaire, grassement payé, à des horaires sympas, sans trop se prendre la tête avec ces cons d'adultes. Oui, car en janvier 2015, vous êtes recruté par l'Association Suisse de Football pour être responsable des juniors. Le poste parfait, tranquille Émile, à l'aise blaise, relax max. Christophe Moulin, on se souviendra de vous comme étant un plombier, oui, mais un plombier efficace. Mais on retiendra surtout que vous avez toujours œuvré pour la relève, que ce soit ici ou ailleurs, peu importe, et ça, c'est louable. Et avec tous les beaux jours qu'il vous reste devant vous, les jeunes joueurs seront toujours bien entourés. Alors pour tout cela, Christophe, on vous dit bravo et merci.
Christophe Moulin, une petite réaction quant à ce portrait signé Jérôme Moutet. On vous a vu pas mal rire.
Oui. Alors, un portrait très sympa. Merci, Jérôme. Peut-être la musique au début, ça aurait été plus sympa, un peu de heavy metal. Ça correspond un peu mieux à mon caractère que la musique classique d'introduction.
Christophe Moulin, le Brésil et le Mexique sont actuellement aux prises depuis 16 heures. C'est toujours 1-0 en faveur du Brésil. Quoique maintenant, juste à l'instant, bah voilà, c'est le 2-0. 2-0 donc pour les Brésiliens. Le Brésil qui va monter en puissance dans cette compétition, selon vous?
Difficile à dire parce que on annonçait le Brésil comme un favori de la compétition et puis en fait c'est une équipe qui est là, qui gagne ses matchs, qui est solide derrière, qui prend peu de buts, mais je la vois pas vraiment monter en puissance, je la trouve pas meilleure que face à la Suisse, elle est constante, elle est régulière, c'est clair, on peut compter sur elle, elle va être dangereuse jusqu'au bout. Mais est-ce qu'elle monte en puissance, est-ce qu'elle met patte là? Pas vraiment, non.
Revenons aussi à présent sur les huitièmes de finale qui se sont déjà joués, avec tout d'abord la France qui, au terme d'une belle rencontre, a battu l'Argentine 4-3 samedi. Les Bleus ont impressionné, semblent lancés et peuvent aller très loin jusqu'au bout, selon vous, Christophe Moulin?
Oui, je pense que la France est un sérieux candidat au titre mondial pour plusieurs raisons. Déjà, le talent de ses joueurs, mais ensuite, également, c'est clair, l'organisation de Didier Deschamps, sa façon de préparer les matchs, de bien planifier face aux adversaires, etc. C'est une équipe quand même prudente, qui se jette pas la fleur au fusil. Et je pense qu'elle a tout pour arriver au bout.
Un mot peut-être sur Kylian Mbappé qui à 19 ans a crevé l'écran avec 2 buts et qui est devenu le 2e plus jeune joueur à inscrire au moins 2 réussites lors d'un match à élimination directe en Coupe du Monde après le Brésilien Pelé. Mbappé, c'est un prodige à vos yeux ?
Oui, c'est un joueur fantastique. Il me fait penser un petit peu à Thierry Henry 20 ans en arrière avec son insouciance, sa vitesse, ses qualités. Maintenant, il faut faire attention quand même. On a tendance à starifier très vite. On avait un match France-Argentine où on dit bah, « Tiens, Messi, il est sur le déclin. » Et puis Mbappé arrive. Moi, c'est un petit peu un raccourci qui est vite fait, je trouve.
Et l'Uruguay, c'est elle, défaite du Portugal. Une équipe très solide, parfaitement organisée, faisant preuve, comme toujours, d'une combativité incroyable.
Bon, c'est clair, hein, c'est leur ADN. Les Uruguayens, depuis longtemps qu'ils sont là, ils se battent énormément. Je pense qu'on parle tout le temps de Suarez Cavani, mais ils peuvent aussi compter certainement sur la meilleure charnière centrale de la Coupe du Monde avec Jiménez et puis Godin. Donc c'est une équipe pour moi qui est très dangereuse, très difficile à jouer.
Vous l'avez un petit peu évoqué, hein, l'Uruguayen Edinson Cavani a flambé avec 2 buts hein, contre le Portugal, mais il s'est aussi blessé durant le même match, on ne sait pas vraiment toujours où il en est, en cas de forfait pour le quart contre la France. On peut parler quand même d'un sacré coup dur qui peut-être diminuerait les chances de l'Uruguay de passer en demi.
C'est clair, hein, l'Uruguay c'est une équipe qui est très solide, qui est très, on va dire, solidaire aussi. C'est un vrai 11, un bloc, mais d'un autre côté, elle a 4 joueurs extraordinaires, comme j'ai dit, les 2 centraux derrière. Les 2 attaquants qui ont fait un festival l'autre soir, quand on pense quand même au premier but que les Uruguayens marquent avec la diagonale de Cavani sur Suarez, ensuite le centre de Suarez sur Cavani, c'est un but extraordinaire. Et je pense que c'est clair, Cavani, par son impact, par sa présence, c'est une grosse perte, il ne peut pas jouer contre la France. Et d'autant plus, je pense que c'est dommage pour lui qui joue au PSG, quoi.
Et puis hier, l'Espagne est passée à la trappe après les tirs au but face au pays organisateur, la Russie. Est-ce qu'on peut dire que c'est la fin du tiki-taka, ce style de jeu hein, qui a fait le bonheur des Ibériques durant plusieurs années et qui est caractérisé par la circulation et la possession du ballon ?
C'est difficile à dire. Moi, ce que j'ai trouvé hier, c'est clair, les Russes ont été très attentistes, ils ont joué très bas. Pour moi, ça ressemblait plutôt à un match de handball, pas un match de foot. Et je déplore malgré tout cette attitude de certaines équipes à cette Coupe du Monde qui jouent très bas, très défensif. Après les Espagnols, il leur a manqué un petit peu de percussion. Il leur a manqué, je trouve, un petit peu de rythme. Ils ont joué à 2 à l'heure, j'ai trouvé. C'est malheureusement sur ce match-là un peu dommage, quoi.
Quant à la Russie, surpris par son bon parcours, parce que moi, je dois vous avouer que je ne les voyais même pas franchir le premier tour.
Ouais, mais avec les Russes, on peut toujours se poser des questions. Et puis là, sur cette Coupe du Monde, bon, ils ont un petit peu de chance. Mais je regrette un petit peu qu'il soit passé malgré tout, parce que pour le foot, c'est un peu triste de voir une équipe pareille qui passe et puis peut-être d'autres encore.
La Croatie a peiné hier hein, pour venir à bout du Danemark. Encore une fois, ça s'est joué au pénalty. Après avoir pourtant impressionné contre l'Argentine notamment, cette équipe peut être la surprise de ce mondial. Vous pensez que la Croatie peut soulever le trophée le 15 juillet ?
Alors la Croatie fait partie des outsiders, pas forcément des favoris de la compétition. Mais encore une fois, c'est une compétition quand même bizarre où aucun favori se détache. Et chez les outsiders, on se disait, tiens, la Croatie, on les voit gros comme des maisons. Puis à la fin, ils ont déçu quand même hier soir. J'ai pensé un peu hier, le scénario du match, ça peut ressembler à celui qu'on pourra avoir demain entre la Suisse et la Suède, avec une équipe joueuse d'un côté, une équipe assez technique que je pourrais comparer à la Suisse, face à un bloc nordique en face, qui lâche rien, qui laisse pas d'espace. Bon, la différence entre le Danemark et la Suède, c'est peut-être Eriksson, et le Danemark joue peut-être un peu plus au ballon.
Et on va revenir sur ce Suède, mais avant ça, juste encore peut-être une ou deux questions par rapport au final, hein, l'Argentine, le Portugal, l'Espagne, les miniers en 8e, l'Allemagne qui ne passe pas le premier tour, ou encore peut-être même l'Italie, pas qualifiée. Les traditionnels favoris et anciens vainqueurs d'une ou plusieurs Coupes du Monde ont déçu. Comment vous l'expliquez ?
On peut l'expliquer pour différentes raisons, mais en fait, il y a une statistique qui m'a un petit peu étonné après le match France-Argentine. C'est la statistique des kilomètres parcourus. Alors depuis des années, on dit à la Coupe du Monde, les stars des grands clubs européens sont fatigués. Et là, on a vu après ce match-là que je crois que les Français et les Argentins ont couru 96 et 97 kilomètres. Alors que normalement, un match de championnat, c'est 120. Un match de Champions League, c'est 120 kilomètres aussi.
Ça veut dire
qu'on
est
très loin du compte, là.
Ça veut dire qu'en moyenne, un joueur en Ligue des Champions va parcourir 12 à 13 kilomètres durant un match. Et là, on est à 2, 3, voire 4 kilomètres en dessous.
Exactement, ouais.
Un côté aussi de tableau est très ouvert, hein, Russie, Croatie, Suisse, Suède, Angleterre, Colombie. L'une de ces équipes sera en finale de la Coupe du Monde. Qui l'eût cru, Christophe ?
Ouais, personne, mais c'est clair, encore une fois, ces Coupes du Monde, maintenant, après des saisons tellement longues, tout peut arriver. Et encore une fois, moi j'estime que malgré tout, c'est plus un signe d'un nivellement vers le bas que vers plutôt une amélioration de quoi que ce soit. Parce qu'à la fin, pour moi, une grande compétition, c'est une compétition où les ténors maîtrisent. Et pour moi, une grande compétition, c'est la Champions League.
Donc pour vous, pour l'instant, vous êtes déçu de cette Coupe du Monde ?
Je suis déçu parce qu'en Champions League, on attend le Real, on attend le Barça, on attend la Juve, le Bayern, le PSG, etc. Ils sont tout le temps là dans les quarts de finale. Mais là, on attendait quand même un petit peu mieux des Brésiliens qui sont quand même représentés maintenant, mais des Allemands, des Espagnols, peut-être même des Portugais qui étaient quand même champions d'Europe en titre. Et à la fin, ces équipes sont dehors. Et encore une fois, la Croatie, une fois bon, une fois moins bon. Les Brésiliens, pas transcendants. On n'a pas une Coupe du Monde où un ténor vraiment maîtrise son truc. On peut dire, tiens, voilà, ils vont être champions du monde. Et même pas les Français, d'ailleurs. Après un match contre l'Argentine, où on dit, OK, ils ont mis 4 buts. Mais pour moi, ils n'ont pas fait une performance extraordinaire.
Ouais, les Brésiliens qui sont en passe de se qualifier pour les quarts de finale. Il reste quelques secondes dans cette partie. 2-0 donc pour le Brésil contre le Mexique. Hein. Deux buts signés Neymar à la 51e et Firmino à la 88e. Parlons à présent de l'équipe de Suisse qui affronte donc la Suède demain à 16h. Comment vous voyez cette partie? Ça s'annonce très serré, peut-être même très fermé.
Alors oui, comme j'ai dit tout à l'heure, entre la Croatie et le Danemark, une équipe peut-être qui va prendre l'initiative, la Suisse, contre un bloc suédois qui va être certainement positionné très bas, avec deux lignes de 4, et peut-être ces deux attaquants qui resteront pour la transition, parce qu'ils partent très vite en contre-attaque. Donc je pense une situation quand même où les Suisses, on doit être patient, on doit faire tourner le ballon un peu plus vite que les Espagnols hier contre les Russes, essayer de contourner ce bloc suédois, passer par les côtés, tout en sachant qu'en mettant des centres, ils ont aussi des gabarits impressionnants dans le jeu aérien, donc peut-être les contourner, mettre des centres en retrait, mais vraiment essayer de jouer rapidement contre ces Suédois-là, et qui pour moi sont actuellement dans la zone défensive avec les Uruguayens, les meilleurs qu'il y a à la Coupe du Monde.
Vous parlez de l'attaque suisse hein, qui fait couler beaucoup d'encre. Hein. Haris Seferovic a encore sa place en tant que titulaire, selon vous?
Alors je dirais, personnellement, je ne suis pas un fan d'Haris Seferovic, mais plus que jamais sur ce match, parce que si on prend un petit peu la problématique de cette défense suédoise positionnée bas, est-ce que ça vaut la peine de mettre un Dirmic ou un Gavranovic qui prennent les espaces? Ou est-ce que quand même, si on doit mettre de temps en temps des centres, on a plutôt besoin d'un Seferovic qui a quand même un peu plus de taille, plus de présence physique. Je pense aussi que si on veut contourner ce bloc suédois, il faut aussi s'appuyer sur un attaquant qui joue en soutien, qui joue en pivot. Et peut-être lui ressort le ballon, on part sur un côté. Donc le profil de Seferovic, pour moi, est plus approprié pour jouer les Suédois que le profil de Gavranovic ou bien Dirmic.
Et pour ce match contre la Suède, la Suisse va devoir remodeler sa défense avec les suspensions de Fabian Scher et du capitaine Stefan Lichtsteiner. Michael Lang et Johan Juru ont les faveurs de la cote pour les remplacer. Vous restez confiant même avec une défense revue à 50%?
Alors oui et non, parce que en fait, on peut être confiant quant au statut et peut-être au potentiel des remplaçants. Je dirais avant tout Lang qui est excellent sur le côté droit, qui est quand même le meilleur joueur de la Swiss Football League la saison dernière. Un Juru qui aura peut-être à cœur de montrer ce qu'il est capable de faire. D'un autre côté, le foot à ce niveau-là se joue sur des détails. Deux défenseurs sur quatre qui vont être remplacés, c'est quand même des détails à régler, c'est quand même peut-être des automatismes à trouver pendant le match, des réglages, des affinements. Et là, j'ai un petit peu souci que tout à coup, sur une action ou sur une autre, et un malentendu ou quoi que ce soit, est-ce qu'Akanji va jouer à gauche, est-ce qu'il va jouer à droite, je ne sais pas, il y a des petites choses qui vont se passer là. Il y a des automatismes maintenant à Akanji Rodriguez sur le côté gauche. Est-ce qu'ils vont changer de position? C'est un petit peu les questions que je me pose et avec les détails, ça peut être un petit peu difficile.
Quelques mots juste pour vous dire que le Brésil a donc validé son ticket pour les quarts de finale après avoir battu le Mexique 2-0. Alors revenons donc à Suisse-Suède. Hein. Donc la Suède, c'est très solide, très très solide. Hein. Les Italiens peuvent en témoigner. Eux qui n'ont pas réussi à marquer le moindre but en 180 minutes lors du barrage en novembre dernier, les balles arrêtées pourraient aussi avoir toute leur importance. Il faudra d'ailleurs peut-être bien entraîner les pénalties aussi.
Alors tout est possible, c'est clair qu'on peut aller jusqu'au bout. Il faut qu'on joue, il faut qu'on essaye de contourner ce bloc, comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis, balle arrêtée, c'est quoi? Eux, ils peuvent être dangereux vraiment sur balle arrêtée offensive. Il faudra vraiment être présent. Pour ça, Juru avec la tête, avec sa taille, peut-être qu'il peut être utile en défense. Quoique Cher est aussi très très bon dans ce jeu-là. Ensuite, les pénalties, on verra ce que ça va donner, mais c'est pour l'instant assez difficile à prédire. Je crois que ce sera quand même un match fermé et puis il n'y aura pas forcément beaucoup d'occasions de but non plus, je pense.
Et puis Johan Juru est quelque peu critiqué, mais jusqu'ici, il a toujours sorti ses matchs lors des grandes compétitions, Euro ou Coupe du Monde avec l'équipe de Suisse.
Oui, il faut lui faire confiance. C'est clair que c'est un défenseur d'expérience. Il a peu joué cette année, mais quand on voit tous les joueurs qui ont peu joué cette année, la Coupe du Monde qu'ils font, c'est des joueurs qui sont frais, qui peuvent amener quelque chose. Donc de ce côté-là, ça peut aussi être un atout, je dirais, pour l'équipe de Suisse.
On arrive gentiment à la fin de ce quart d'heure des spécialistes. On va encore vous demander, peut-être de vous mouiller, Christophe Moulin, un pronostic sur ce match Suisse-Suède?
Alors un match fermé, comme j'ai dit tout à l'heure, et puis une victoire de la Suisse, ça, il faut vraiment l'espérer. Une victoire étriquée, allez, disons 1-0.
Et puis ensuite, la Suisse, vous la voyez aller jusqu'où?
Alors je la vois déjà contre l'Angleterre, ce serait fantastique de jouer les Anglais. Qui présentent un beau football pour l'instant, mais qui ne sont pas non plus transcendants. Donc allons-y par étapes. Déjà qu'on passe une fois ces huitièmes de finale, et puis ensuite on verra tout est possible hein, avec les équipes qui sont encore en présence.
On se réjouit de voir tout ça. Christophe Moulin, chef du service du football d'élite à l'Association Suisse de Football, merci d'avoir été en direct avec nous et belle suite de Coupe du Monde.
Merci à vous aussi.
Les tsars du ballon rond. Le quart d'heure des spécialistes.